Ce jour-là, Miss Campbell, les frères Melville, les deux jeunes gens, partirent donc après déjeuner. Il faisait un beau temps d'automne. À chaque moment, quelques échappées de lumière filtraient à travers la déchirure des nuages peu épais. Sous ces intermittences, les ruines qui couronnent cette partie de l'île, les roches heureusement groupées du littoral, les maisons éparses sur le terrain mouvementé d'Iona, la mer striée au loin par les caresses d'une jolie brise, semblaient renouveler leur aspect un peu triste et s'égayer sous des effets de soleil. Ce n'était point le jour des visiteurs. Le steamer en avait débarqué une cinquantaine la veille, il en débarquerait sans doute autant le lendemain, mais aujourd'hui, l'île d'Iona appartenait tout entière à ses nouveaux habitants. Les ruines seraient donc absolument désertes lorsque les promeneurs y arriveraient. La route se fit gaiement. La bonne humeur du frère Sam et du frère Sib avait gagné leurs compagnons. Ils causaient, allaient et venaient, s'éloignaient à travers les petits sentiers rocailleux entre de basses murailles de pierres sèches. Tout était donc pour le mieux lorsqu'on s'arrêta d'abord en face du calvaire de McLean. Ce beau monolithe de granit rouge, haut de 14 pieds qui domine la chaussée de Main Street, est l'unique reste des 360 croix dont l'île fut hérisée jusqu'à l'époque de la Réforme, vers le milieu du XVIe siècle. Olivier Sinclair voulut avec raison prendre un croquis de ce monument qui est d'un bon travail et produit un bel effet au milieu d'une aride plaine tapissée d'herbes grisonnantes. Miss Campbell, les frères Melville et lui se groupèrent donc à une cinquantaine de pas du calvaire afin d'en avoir une vue d'ensemble. Olivier Sinclair s'assit sur le coin d'un petit mur et commença à dessiner les premiers plans du terrain sur lequel se dresse la croix de McLean. Quelques instants après, il leur sembla à tous qu'une forme humaine s'essayait à gravir les premières assises de ce calvaire. « Bon, dit Olivier Sinclair, que vient faire ici cet intrus ?»« Si encore il était habillé en moine, il ne ferait pas tâche et je pourrais le prosterner au pied de cette vieille croix. »
« C'est un simple curieux qui va bien vous gêner, monsieur Sinclair, » répondit Miss Campbell.
« Mais n'est-ce point Aristobulus sur Cyclope qui nous a devancés ?» dit le frère Sam.
« C'est bien lui !» ajouta le frère Sib.
C'était Aristobulus sur Cyclope, en effet. Monté sur le soubassement du calvaire, il l'attaquait à coups de marteau. Miss Campbell, outrée de ce sans-gêne de minéralogiste, se dirigea aussitôt vers lui. « Que faites-vous là, monsieur ? » demanda-t-elle.
« Vous le voyez, Miss Campbell, » répondit Aristobulus sur Cyclope. « Je cherche à détacher un morceau de ce granit. »«
Mais à quoi bon ces manies ? Je croyais que le temps des iconoclastes était passé. » »«
Je ne suis point un iconoclaste, » répondit Aristobulus sur Cyclope. « Mais je suis un géologue, et comme tel, je tiens à savoir quelle est la nature de cette pierre. »
Un violent coup de marteau avait fini l'œuvre de dégradation. Une pierre du soubassement venait de rouler sur le sol. Aristobulus sur Cyclope la ramassa et, doublant le pouvoir optique de ses lunettes d'une grosse loupe de naturaliste qu'il tira de son étui, il l'approcha du bout de son nez.
« C'est bien ce que je pensais, » dit-il. « Voilà un granit rouge d'un grain très serré, très résistant, qui a dû être tiré de l'îlot des nonnes, en tout semblable à celui dont les architectes du XIIe siècle se sont servis pour construire la cathédrale d'Iona. »
Et Aristobulus sur Cyclope ne perdit pas une si belle occasion de se lancer dans une dissertation archéologique que les frères Melville, ils venaient de le rejoindre, crurent devoir écouter.
Miss Campbell, sans plus de cérémonie, était revenue vers Olivier Sinclair, et lorsque le dessin fut achevé, tous se retrouvèrent au parvis de la cathédrale.
Ce monument est un édifice complexe, fait de deux églises accouplées dont les murs épais comme des courtines, les piliers solides comme des roches, ont bravé les injures de ce climat depuis 1300 ans. Pendant quelques minutes, les visiteurs se promenèrent dans la première église qui est romane par le cintre de ses voûtes et la courbe de ses arcades, puis dans la seconde, édifice gothique du XIIe siècle formant la nef et les transepts de la première. Ils allaient ainsi à travers ces ruines d'une époque à une autre, foulant les grandes dalles carrées dont les jointures laissaient poindre le sol. Ici, c'était des couvercles de tombes. Là, quelques pierres funéraires dressées dans les coins avec leurs figures sculptées qui semblaient attendre l'aumône du passant.
Tout cet ensemble, lourd, sévère, silencieux, respirait la poésie des temps passés. Miss Campbell, Olivier Sinclair et les frères Melville, ne s'apercevant pas que leurs trop savants compagnons restaient en arrière, pénétrèrent alors sous l'épaisse voûte de la tour carrée, voûte qui dominait autrefois le portail de la première église et se dressa plus tard au point d'intersection des deux édifices. Quelques instants après, des pas mesurés appliqués sur le pavé sonore se firent entendre. On eût pu croire qu'une statue de pierre, animée au souffle de quelque génie, marchait pesamment comme le commandeur dans le salon de Don Juan.
C'était Aristobulus Ursiclo qui, de ses enjambées métriques, mesurait les dimensions de la cathédrale.
« 160 pieds de l'est à l'ouest, » dit-il, en notant ce chiffre sur son carnet au moment où il entrait dans la seconde église.
« Ah, c'est vous, monsieur Ursiclo ?» dit ironiquement Miss Campbell. « Après le minéralogiste, le géomètre ?»«
Et 70 pieds seulement au croisement des transepts, » répondit Aristobulus Ursiclo.
« Et combien de pouces ?» demanda Olivier Sinclair.
Aristobulus Ursiclo regarda Olivier Sinclair en homme qui ne sait s'il doit ou non se fâcher. Mais les frères Melville, intervenant à propos, entraînèrent Miss Campbell et les deux jeunes gens à la visite du monastère.
Cet édifice n'offre que des restes méconnaissables, bien qu'il ait survécu aux dégradations de la Réforme. Après cette époque, il servit même de communauté à quelques religieuses chanoinesses de Saint-Augustin, auxquelles l'État y donna asile. Ce ne sont plus maintenant que les lamentables ruines d'un couvent dévasté par les tempêtes, qui n'avait ni voûte en plein cintre, ni pilier roman pour pouvoir impunément résister aux intempéries d'un climat hyperboréen. Cependant, les visiteurs, après avoir exploré ce qui restait de ce monastère, si florissant autrefois, purent encore admirer la chapelle mieux conservée, dont Aristobulus Ursiclo ne crut pas devoir mesurer les dimensions intérieures. À cette chapelle, moins ancienne ou plus solidement construite que les réfectoires ou les cloîtres du couvent, le toit seul manquait, mais le chœur, qui est presque intact, est un morceau d'architecture très goûté des antiquaires. C'est dans la partie ouest que s'élève le tombeau de celle qui fut la dernière abbesse de la communauté. Sur sa dalle de marbre noir apparaît une figure de vierge sculptée entre deux anges et au-dessus une madone tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Ainsi que la Vierge à la chaise et la Madone de Saint-Sixte, les seules vierges de Raphaël qui ne baissent pas leurs paupières, celles-ci regardent, et il semble que ses yeux sourient. Cette remarque fut très à propos faite par Miss Campbell, mais elle eut pour résultat d'amener sur les lèvres d'Aristobulus Ursiclo une moue assez ironique.
« Où avez-vous pris, Miss Campbell, dit-il, que les yeux puissent jamais sourire ?»
Peut-être Miss Campbell eut-elle l'envie de lui répondre qu'en tout cas, ce ne serait pas en le regardant que les siens auraient jamais cette expression, mais elle se tut.
« C'est une faute communément répandue, » reprit Aristobulus Ursiclo comme s'il eût professé ex cathedra, « que de parler du sourire des yeux. Ces organes de la vue sont précisément dénués de toute expression, ainsi que nous l'apprend l'oculistique. Exemple. Posez un masque sur un visage. Regardez ses yeux à travers ce masque et je vous mets au défi de reconnaître si ce visage est gai, triste ou colère.
« Ah, oh, vraiment ?» répondit le frère Sam qui parut s'intéresser à cette petite leçon.
« J'ignorais cela !» ajouta le frère Sib.
« Il en est ainsi cependant, » reprit Aristobulus Ursiclo.
« Et si j'avais un masque ?»
Mais l'étonnant jeune homme n'avait pas de masque. Et l'expérience ne put être faite de manière à enlever tout doute à cet égard. Au surplus, Miss Campbell et Olivier Sinclair avaient déjà quitté le cloître et se dirigeaient vers le cimetière d'Iona.